France Inter, le 18-20.
Parmi les choses qui grincent déjà, il y a le totem, le statut des cheminots, pas la retraite encore, mais ceux qui seront embauchés désormais ne le seront plus comme aujourd'hui. Il y a aussi l'abandon des dessertes non rentables, en tout cas on remet tout ça à plat. Et pour vous qui nous écoutez dans les petites villes, ça veut dire abandon de certaines dessertes. La transformation de la SNCF également en société anonyme, l'un des chiffons rouges agités par les syndicats. Bref, le rapport Spinetta sur l'avenir du transport ferroviaire, ce sont de grandes mesures et quelques révolutions aussi pour une société qui vous accompagne souvent tous les jours. Les syndicats grincent déjà des dents, certains parlent d'attaques sur le service public. Le gouvernement répond concertation qui commence dès lundi. La situation est préoccupante et le système doit se réformer, fermer les guillemets. C'est l'essentiel, l'essence de ce rapport. Jamais le rail français n'avait connu une secousse de ce genre depuis 1937, dit-on. Ce soir, ceux qui nous aiment prennent le train, attention à la marche.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Jean-Robert, c'est vous qui commencez. Bonsoir Jean-Robert et soyez le bienvenu.
Bonsoir, je suis content de commencer d'être à nouveau chez vous. J'aime bien votre émission, comme tout le monde le dit, c'est vrai. J'avais une réflexion sur Monsieur Spinetta, qui a été membre du conseil de surveillance d'Areva et président directeur général d'Air France, et ça me semble tout à fait bien pour faire un truc sur la SNCF, parce qu'il a bien réussi dans ces deux entreprises. La question que j'avais, c'est que dans son rapport, il dit que supprimer le statut des cheminots, c'est comme on a fait à France Télécom. Et à France Télécom, d'après ce que j'ai entendu dire quelquefois, il y a eu pas mal de suicides suite à la réorganisation, à la privatisation. Et ils sont suicidés sur le lieu de travail. Si les cheminots se suicident sur le lieu de travail, ça risque d'encombrer les voies, non ?
Merci pour cette question cynique, Jean-Robert, pour démarrer le débat dans de bonnes conditions. Pour vous répondre ce soir et pour être avec nous jusqu'à 20h, Gilles Danzard est là, bonsoir. Vous êtes directeur du magazine Mobilettre. Bruno Gazot est là, président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers de Transport. Bonsoir. Et Roger Dillen-Seguer, vous êtes là aussi, secrétaire général. UNSA Ferroviaire, c'est le deuxième syndicat SNCF. Alors, sans être dans le cynisme de Jean-Robert, est-ce que ça change beaucoup de choses, c'est pour vous, Roger Dillen-Seguer, le changement de statut des cheminots? D'abord, est-ce qu'on sait réellement de quoi on parle? Qu'est-ce qui va changer exactement dans le statut?
Ben, en fin de compte, oui, effectivement, on commence bien par une bonne question que je voudrais également un peu relativiser, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où le risque de suicide peut amener, dans la SNCF, même s'il existe, peut amener des situations dangereuses, parce que tout simplement...
Faut pas plaisanter avec ces choses-là.
Parce que tout simplement, la sécurité est une valeur importante et le respect de la sécurité nous à tous cheminots un sujet important. Et en l'occurrence, qu'est-ce que c'est le cheminot? Qu'est-ce que c'est le statut des cheminots? C'est tout simplement une des garanties pour faire fonctionner les systèmes en toute sécurité. C'est l'embauche plutôt jeune, avec de la formation d'entrée à la SNCF, avec des compléments de formation tout au long de la vie, tout au long de la carrière, et également une transmission des savoirs et des compétences tout au long de la carrière.
Ça, c'est pas des statuts, monsieur Dillen-Seguer, pardon. C'est pas dans les textes, ce genre de choses.
C'est tout simplement une garantie d'embauche au niveau de la SNCF et une carrière complète au niveau de la SNCF qui permet justement cette transmission et cette fidélisation des salariés à un statut de la SNCF, à une entreprise qui permet également d'assurer une sécurité de haut niveau.
La garantie de l'emploi reste, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Voilà, donc aujourd'hui, ce qui reste, c'est entre guillemets, et pour le moment, en cas de transfert de compétences, en cas de transfert de personnel dans une entreprise privée, aujourd'hui, la garantie de l'emploi, elle est marquée nulle part. Donc quelque part, nous, on demande à voir, et quand on dit on supprime le statut... Et il faut le dire avec la plus grande prudence, parce que c'est un premier pas où on ne sait jamais jusqu'où ça va aller.
D'essayer de reposer la question, Gilles Danzard, mais est-ce qu'on sait ce qu'on enlève de ce statut-là? D'abord, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment si particulières que ça, que les gens qui nous écoutent comprennent? Parce qu'on a l'impression, en écoutant finalement, qu'il y a un statut extrêmement particulier des cheminots, donc ça veut dire aussi, aux yeux de certains, extrêmement privilégié. Qu'est-ce qu'on enlève exactement? De quoi on parle quand on parle de statut des cheminots?
Alors, il y a beaucoup de choses dans le statut. Hein. Ce sont des documents assez volumineux, mais qui tiennent à l'évolution de la carrière, à l'évolution des rémunérations, à la façon dont sont encadrés les temps de travail, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est extrêmement rigide. Et c'est d'ailleurs parce que c'est assez rigide que les managements demandent à ce que ce soit assoupli, parce que ça pèse à la fois sur les comptes, mais aussi sur l'organisation du travail.
Donc, par exemple, pardon de vous demander un exemple, mais il paraît qu'il y a 10% aujourd'hui des agents SNCF qui ne sont pas embauchés sous statut. Qu'est-ce qu'ils ont de moins que ceux qui sont embauchés sous statut aujourd'hui?
Roger Dienseger pourrait le sait beaucoup mieux que moi, mais si on prend des exemples, par exemple, aujourd'hui, sur la rémunération, il y a des mécanismes qui font que tous les ans, il y a une augmentation de plus de 2% de la masse salariale. Elle est mécanique. Elle n'est pas liée à des décisions de type individuel, etc. Elle est totalement mécanique. Mais ça vient du statut. Donc, 2% mécaniquement d'augmentation du budget d'une entreprise, parce que le statut le dit, il y a peu d'entreprises qui peuvent supporter ça. Mmh. Donc c'est un des exemples. Il y a beaucoup de choses subies qui ne sont pas du domaine de la décision d'un management, etc.
Au fond, la crainte, Roger Dienseger, c'est effectivement c'est ce que vous disiez, jusqu'où on va. Est-ce que selon vous, c'est l'ouverture aussi à un changement de statut de la retraite des cheminots? Est-ce que c'est cette droite ligne-là vers laquelle on va?
Tout à fait. Je ne sais pas si on y va, mais en tout cas, c'est l'inquiétude qui est la nôtre. Aujourd'hui, nous, on considère que le statut des cheminots, c'est pas exclusivement un acquis social, mais c'est également une contrepartie à des contraintes de fonctionnement, à des contraintes d'exploitation qui sont, je le rappelle, 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre. Donc c'est une contrepartie à ces contraintes-là, avec les suggestions de nuit ou de dimanche et tout ce qui va avec, qui fait que on assure un équilibre. Si demain on enlève une partie de l'équilibre, ben ça va être un peu compliqué également pour les salariés.
Est-ce que vous dites c'est immuable ça? Est-ce que c'est le chiffon rouge, comme on dit, ne faut pas y toucher? Ou est-ce que vous voulez bien regarder dans les coins?
À ce stade, nous, la défense du statut est un élément hyper important pour les organisations syndicales.
Bruno Gazo, vous qui présidez la Fédération nationale des associations d'usagers du transport pour les usagers, ils connaissent ces choses-là aussi. Est-ce que c'est important de garder ces statuts-là? Parce que ça garantit aussi quelque chose de la SNCF.
Pour les usagers, ce qui est quand même très important, c'est ce qu'on appelle la qualité de service. C'est-à-dire la fiabilité, la ponctualité, des trains qui ne sont pas supprimés, des trains qui arrivent à l'heure. C'est quand même d'abord ça. C'est d'abord ça qu'ils veulent les usagers. Même avant les prix, c'est d'abord la fiabilité. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un usager que l'incertain. Voilà. Donc, alors dans ce rapport, il y a des choses qui peuvent être acceptables, puis il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Par exemple, on veut un équilibre économique pour le ferroviaire. Mais à aucun moment, on nous dit le ferroviaire est cher. Bon, moi, j'aime bien quand on dit ça, mais on dit jamais que la route est chère. Et aujourd'hui, le train, dans votre prix du billet, vous avez 40% de votre billet où vous payez l'infrastructure, le sillon, alors que vous prenez la route, sauf sur les autoroutes, mais vous prenez la route, vous ne payez pas ces 40%. Le train, le prix du sillon a augmenté de 25% sur les 5 dernières années. Et le prix de l'essence baissait, du kilomètre essence baissait dans le même temps de 25%. Et la concurrence est totalement déformée, là. Donc, je trouve qu'il faut, de la part de l'État, remettre de l'équité dans tout ça. Parce qu'on dit toujours que le ferroviaire est subventionné, mais les autres modes sont défiscalisés.
Et on y reviendra dans un instant. Je voudrais qu'on prenne la question de Marie, qui voulait rebondir sur l'auditeur précédent. Marie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute, Marie.
Merci de prendre ma question. Je voulais savoir s'il était exact qu'un cheminot a des tarifs préférentiels pour ses parents, ses ascendants, ses beaux-parents. Et si oui, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ça ne pourrait pas faire l'objet de quelques rectifications pour faire des économies? Et moi, j'ai pas tellement envie de payer mon billet Chambéry-Paris 80 euros quand je sais que les beaux-parents d'un monsieur qui travaille à la SNCF a des tarifs préférentiels nettement avantageux.
Et merci pour votre question, Marie. Roger Dienseger, les employés de la SNCF et leurs ayants droit, effectivement. Ça marche jusqu'à quel degré?
Alors,
en toute ouverture, moi je suis fille de cheminot, j'en ai profité aussi.
Il y a pas de secret par rapport à ça. Tout ça c'est tout à fait réglementé pour les ascendants et descendants. Mmh. Mais tout simplement, là également, c'est pas le fruit du hasard. Le cheminot qui travaille dans l'entreprise SNCF sur le périmètre national est soumis à des clauses de mobilité. Et en l'occurrence, les clauses de mobilité, qui font également partie du statut de ce contrat global, la compensation, c'est de permettre aux familles de se rapprocher 3, 4 fois par an. Et pour ça, que les beaux-parents ou beaux-parents puissent avoir des billets gratuits, justement, en contrepartie de cette clause de mobilité, pour que les familles puissent se réunir.
Ça existe dans plusieurs sociétés par ailleurs, il faut le rappeler. Voilà, ça existe Air France, ça existe au Télécom, ça existait dans beaucoup de compagnies, de beaucoup de compagnies publiques. Je voudrais qu'on écoute Daniel. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir. Je vous dirai. Ouh, il y a le coucou qui sonne là.
Ah ben écoutez, éloignez-vous du coucou, Daniel.
Ça y est, le coucou, il a sonné qu'une fois.
En même temps, il était 30 piles, donc il est à l'heure. Un peu comme un train finalement. Enfin, pas tous. Allez, on vous écoute.
Je voulais poser une question concernant le ferroutage.
Allez-y.
Alors, est-ce que le ferroutage est évoqué dans le rapport dont j'ai oublié le nom
actuellement? De M. Spinetta,
oui. Oui, de M. Spinetta. Est-ce qu'il est évoqué? Est-ce qu'il a été analysé? Quel est l'état actuel du ferroutage? L'état actuel, quel est l'avenir du ferroutage? Et quelle est la comparaison du ferroutage par rapport aux autres pays européens, en particulier la Suisse?
Merci beaucoup pour votre question. Daniel, Gilles Dansart qui veut répondre. Le ferroutage.
Alors, Jean-Claude Spinetta a mis de côté la plupart des questions relatives au fret. Il a juste recommandé la filialisation du fret, c'est-à-dire la transformation de Fret SNCF en filiale, mais il n'a pas traité l'économie du fret ferroviaire, ce qui est un peu surprenant parce que...
J'allais vous demander pourquoi est-ce qu'on le met de côté.
Parce que à cette époque où on privilégie le développement durable et un certain nombre de priorités environnementales, c'est étonnant, mais finalement, Jean-Claude Spinetta a privilégié une approche très économique et financière de la question. Donc toutes ces questions qui sont extrêmement compliquées de concurrence entre les modes, etc., ne sont pas frontalement abordées. Il s'est concentré sur la question ferroviaire et sur la SNCF elle-même, ce qui fait que on peut considérer qu'il n'a pas défini une stratégie ferroviaire pour 30 ans pour la France. Il a défini une stratégie ferroviaire pour le gouvernement de M. Macron et de M. Philippe.
Bruno Gazo, c'est aussi votre point de vue. On ne regarde pas à très très longue échéance dans ce rapport ferroviaire dont on dit qu'il est révolutionnaire?
C'est un peu comme le rapport Durand, il fixe une première étape et puis le reste, après, on verra. Donc on engage tout de suite des travaux pour désaturer les gares, c'est des premières étapes, mais après, quelles lignes vont survivre? Là, on dresse tout un panorama sur la suppression des petites lignes.
On va y venir. Allez-y, non, mais je vous en prie.
Qui sont gentiment repassés aux régions, mais a-t-on prévu des moyens financiers pour les régions d'entretenir ces lignes? Sinon, on laisse faire le boulot de fermer des lignes aux régions. Bon, c'est pas nouveau, hein, ça fait déjà un petit moment qu'on ferme des gares, qu'on ferme des guichets, qu'on supprime des fréquences. Donc là-dessus, va falloir réagir. Mais les petites lignes sont importantes, de même que la desserte des villes moyennes.
Et toutes les petites lignes sont importantes. Je disais, on va y venir parce qu'il y a une question d'Yvon qui vient dans un instant, mais... Quand on dit les chiffres, quand on regarde les chiffres, voilà 45% du rail, c'est 2% des voyageurs. Est-ce que toutes ces lignes, est-ce qu'on peut pas faire cet audit
vu
en fait?
De Paris, toutes les lignes sont pas très importantes. Quand on vous supprime votre train, quand on ferme votre gare, ça veut dire que votre ville, votre petite ville ou votre ville moyenne va continuer à dépérir si elle n'est plus desservie par le ferroviaire. Le maillage, c'est quelque chose de très important, le maillage ferroviaire.
Et on y vient grâce à vous, Yvon. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir France Inter et merci d'avoir pris ma question. Bruxelles demande à la France d'augmenter sa lutte contre la pollution automobile, même en province. Le train est une bonne possibilité contre la pollution automobile. Pourquoi supprimer en province des petites lignes non rentables alors qu'on doit combattre la pollution automobile?
Merci pour votre question et qui est frappée au coin du bon sens. Roger Dillenseger, c'est un argument?
Alors très clairement, merci pour cette question, parce que on souligne là du doigt, on pointe là du doigt directement cet aspect, ces contradictions, et justement en traitant la question du ferroviaire exclusivement par la voie de l'économie et du concurrentiel, on va très rapidement orienter les transports vers les endroits, vers, on va dire, les régions plutôt aisées, et on va enclaver les régions plutôt moins aisées. Et en fin de compte, sur cette question-là, nous, ce qu'on peut regretter, même en tant qu'organisation syndicale, on regrette complètement la confiscation du débat public sur le sujet. Ce sujet-là, ça doit être... on a eu l'occasion déjà dans les différents comités de ligne de s'exprimer. Et là, je reviens potentiellement sur la régionalisation qui s'est mise en place dans les années 98-2000, qui a apporté un élément contributif à la volonté. Et en fin de compte, on est bien sur cette situation où si on met tout sur la question purement économique, le service public risque d'en pâtir fortement.
Mais là aussi, monsieur Dillenseger, c'est du chiffon rouge. Ça veut dire que, oui, il faut accepter la non-rentabilité. Il ne faut pas fermer de lignes. Ou est-ce qu'on discute ou pas? Alors, sur ce sujet précisément.
Le premier sujet, la pertinence économique. Alors, ce qui est pour nous évident, on est responsable dans notre approche et on n'est pas du tout fermé à aucune discussion. Pour autant, on sait très bien que dès le moment qu'on réduit le trafic et qu'on ferme une ligne, c'est irréversible. Une fois qu'une ligne ferroviaire est transformée en piste cyclable, c'est fini, on revient plus en arrière. Nous, on prône le débat public, on prône l'écoute citoyenne, les organisations, les représentants des usagers et des salariés, mais également justement pour avoir une approche objective et pas seulement l'aspect purement économique et concurrentiel.
Et Gilles Dansart, mais il n'y a pas eu une concertation, enfin dans mes souvenirs, il y a eu une concertation des transports, celle-là même d'ailleurs qui a acté la fin des lignes TGV, etc., et qui a parlé de ce maillage-là, autour des petites lignes notamment.
Oui, mais là, la nouvelle philosophie du gouvernement est très claire. Le TGV et les métropoles sont pertinentes pour le ferroviaire, le reste c'est la route. C'est très très clair, aussi bien dans les écrits de la ministre que dans le rapport précédent d'un ex-parlementaire, Philippe Duron, que dans le rapport Spinetta, c'est la route va répondre aux besoins grâce à la voiture autonome, connectée, intelligente, etc. La route va répondre aux besoins de déplacement dans les zones rurales, dans les villes moyennes, etc. Donc ça, c'est une philosophie très claire. Et deuxième chose, le transport public n'est pas rentable, n'est jamais rentable. C'est-à-dire seul le TGV assume ses coûts, voire fait des bénéfices, mais dès qu'on est dans ce qu'on appelait les corails, les intercités, les TER ou le Transilien en Île-de-France, etc., c'est déficitaire. Le transport public est structurellement déficitaire, c'est comme ça dans tous les pays, donc il ne faut pas chercher à ce qu'il soit rentable, la notion n'a pas de sens. Il faut juste savoir à quel niveau la collectivité veut financer un certain nombre de services et jusqu'où elle est prête à financer des services très déficitaires au nom du service public, de l'aménagement du territoire, de la solidarité nationale, etc. C'est ça les vraies questions.
Bruno Gazo, Gilles Dansart parlait à l'instant de changement de philosophie. Est-ce que vous lisez, vous, dans ce rapport, un vrai changement de paradigme, en fait, réellement, une vision totalement différente du transport ferroviaire aujourd'hui? On dit que c'est la révolution depuis 1937. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous le ressentez?
Je partage l'avis de Gilles Dansart, comme quoi ce gouvernement, comme les précédents, mise beaucoup sur la route. Or, on a fait quand même des nouvelles régions, il y a des cartes universitaires, il y a des cartes hospitalières, tout ça génère de la mobilité et tout ça ne peut pas être fait que par la voiture. On a besoin d'un réseau ferré qui soit structurant et sur lequel s'accrochent les nouvelles mobilités. Mais ça ne peut pas être les nouvelles mobilités qui sont structurantes. C'est le réseau ferré qui est structurant, sur lequel on accroche des autocars, on accroche du covoiturage, on accroche des tas de nouvelles mobilités, c'est très bien, mais ces nouvelles mobilités ne font que quelques pourcents de la mobilité. Le reste, c'est quand même le ferroviaire qui fait l'essentiel. Donc on ne peut pas détruire le ferroviaire comme ça.
L'essentiel du problème, c'est ce que disent beaucoup d'auditeurs sur franceinter.fr, c'est l'ouverture à la concurrence. Et ben, c'est votre question aussi, Marie, profitons-en. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, je voulais savoir si dans le rapport en question, il était abordé la potentialité, enfin, quels étaient les concurrents potentiels. Je suppose qu'il y a des gens qui sont sur les rangs, il y a des sociétés qui sont sur les rangs, ou des ferroviaires qui sont sur les rangs pour pouvoir concurrencer la SNCF. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que la concurrence, elle va être privée, je suis sûre. Si on privatise la SNCF, on va faire venir sur notre réseau ferroviaire des sociétés privées qui n'auront que le but de ces sociétés, c'est de faire du fric, comme toute société privée, de faire du profit. Et donc, si des lignes sont pas rentables, eh ben, on les abandonnera et puis on fera autre chose à la place. Et puis, question subsidiaire, qui va entretenir les voies? Qui va entretenir tout le réseau ferré sur lequel ces sociétés concurrentes vont passer? Voilà. Et alors la sécurité, bonjour, hein, par rapport à ça. Souvenons-nous de ce qui s'est passé en Angleterre quand les lignes ont été privatisées. Voilà.
Merci beaucoup pour vos remarques, Marie, dans le téléphone sonne. Est-ce qu'on peut essayer de faire bien comprendre à nos auditeurs, Gilles Dansart, d'abord, ça veut dire quoi, ouverture à la concurrence? Il y aura, c'est inéluctable, on parle des TER, on parle de certaines lignes TGV. Est-ce qu'on peut remettre les choses en place, en fait?
Alors déjà, concurrence ne veut pas dire privatisation. Concurrence, ça va se transformer en délégation de services publics pour les TER, par exemple, ou pour les trains intercités. Donc, ça n'est pas une privatisation sauvage.
Donc, c'est pas une entreprise que les gens comprennent très bien. C'est pas une entreprise qui va arriver en disant « Moi, je veux être propriétaire de la ligne qui va de Limoges à Brive. »
Voilà. Et en plus, l'infrastructure va rester le monopole de SNCF Réseau. Donc là, ça n'est pas une privatisation. En revanche, c'est sûr qu'il y a deux effets qui sont recherchés par l'arrivée de concurrents, qui soient publics, parapublic ou complètement privé.
Mais ça peut être qui ?
Bah, par exemple, Transdev, qui est une filiale de la Caisse des dépôts. Comme entreprise privée, on a fait plus fort. Ça peut être des Italiens qui s'intéressent au réseau TGV. Ça peut être des Anglais. Ça peut être, pourquoi pas, des Chinois. Donc, ce sont des entreprises très vaines, mais qui devront obéir, pour ce qui est des TER et du transport de proximité, à des cahiers des charges très clairs. Les Français savent bien que dans leur ville, je mets de côté l'Île-de-France qui a un cas historique un peu particulier, que dans leur ville, les transports urbains sont assurés par de telles sociétés. Elles s'appellent Keolis, elles s'appellent Transdev, elles s'appellent RATPDev, et peut-être demain des sociétés étrangères. Et ils ne voient pas la différence parce que les cahiers des charges sont très forts. Donc ça, c'est une première chose. Et la concurrence, elle est censée amener deux choses. Premièrement, C'est un effet à un coût. C'est-à-dire que ça fait baisser de 20 à 30% pour une collectivité ce qu'elle apporte pour assurer un service. Donc ça, une fois qu'on l'a fait, après, voilà, on baisse pas éternellement tous les ans ou tous les 5 ans de 20%. Donc ça soulage les finances publiques. Et le deuxième effet, c'est que ça apporte un peu de dynamisme. C'est-à-dire que les sociétés, pour gagner ce qu'on appelle les appels d'offres, elles font assaut d'innovation et de modèles économiques pour les voyageurs, etc., qui font que ça progresse un peu. Et en France, de fait, dans le transport urbain, on a une vraie dynamique de concurrence qui fait que les transports urbains français sont quand même, dans les grandes villes et les moyennes villes, sont quand même souvent pris en exemple dans le monde entier. Donc, concurrence n'est pas privatisation, mais encore une fois, il faut que ce soit encadré sérieusement.
Roger Dillenseguer, est-ce que ça vous paraît suffisamment encadré ? Est-ce que c'est là aussi ce qui vous fait peur dans le futur de la SNCF ?
Alors, nous, il faut surtout pas être naïf. La concurrence, les concurrents qui arriveront, de quelque sorte qu'ils soient, c'est très rarement des philanthropes. Ils ne viendront pas pour faire du train gratuitement. Et je pense même que le bénéfice par rapport à l'usager, il sera pas perceptible ni au niveau du prix, ni au niveau d'autres choses. Et on peut juste rappeler tout simplement qu'au niveau des tarifs en Angleterre, c'est en moyenne 6 fois plus cher qu'en France. Donc quelque part, il y a quand même de vrais sujets.
On peut rappeler une filiale de SNCF qui s'appelle Keolis, va sur les marchés anglais, allemands, et gagne des marchés. Donc c'est un peu compliqué de considérer que la SNCF peut aller à l'étranger sur des marchés ferroviaires, mais refuse
De toute façon, l'ouverture à la concurrence, par ailleurs, est une obligation en l'état. Enfin, ça fait partie.
Et même si je suis syndicaliste, je suis également cheminot de la SNCF, je suis également convaincu que SNCF, TER... peut faire des gains de productivité comme ils le font déjà depuis des années et peut également améliorer le service. Et je suis convaincu que toutes les équipes y travaillent.
Est-ce qu'on verra la différence, nous, les usagers, Monsieur Gazot ?
Si vous voulez, dans ces délégations de services publics, qui est prévu pour les TER, on ne parle pas des grandes lignes, mais des TER, le cahier des charges précise combien de fréquences, quel jour, pendant les vacances, etc. Il précise les tarifs, c'est la collectivité qui fixe les tarifs, c'est à les régions maintenant qui ont cette compétence. Et donc, ce qu'on attend de la concurrence, régulée, il faut être précis sur les mots, il s'agit de concurrence régulée, c'est-à-dire on met en appel d'offres des lots, conséquent.
Et c'est ce qui se fait. D'accord, c'est pas des lignes, hein,
c'est des groupes de lignes.
Exactement, c'est des groupes de lignes.
Ou des réseaux urbains, c'est la même chose. Et là, c'est sûr que la concurrence est un facteur d'amélioration de la qualité et de baisse des coûts.
Voilà. Vous, usagers, vous attendez le moment où la concurrence sera là, où on ouvrira la concurrence.
Disons que la SNCF ne nous a pas toujours habitués à 98% de ponctualité. On est plutôt autour de 85 ou de 87% de ponctualité, ce qui veut dire que vous êtes en retard une fois par semaine à votre boulot quand même.
Il y avait autre chose dans la question de Marie qui était une question pertinente. Il faut rappeler aux gens que la SNCF est séparée en trois, parce que c'est toujours important de rappeler comment fonctionnent les choses. Il y a l'EPIC SNCF qui est l'espèce de holding qui chapeaute un peu tout le monde, et puis il y a SNCF Mobilité qui fait rouler les trains, SNCF Réseau réseau qui s'occupe des rails. Une fois qu'on privatise, qu'est-ce qui se passe sur certains secteurs? Qui s'occupe de l'entretien? Est-ce que c'est toujours sous SNCF Réseau? Comment ça va marcher, cette histoire?
Il y a toujours un monopole. Dans ça. Toujours un monopole de la gestion d'infrastructures. Il y a une ou deux exceptions, hein, comme sur la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, qu'on a financée grâce à des fonds privés, mais c'est marginal. La règle générale, c'est que SNCF Réseau assure l'entretien du réseau ferroviaire français. Alors, elle peut le faire avec des entreprises privées, ça se fait de plus en plus, d'ailleurs c'est contesté par les cheminots, mais en tout cas, c'est un monopole qui assure l'entretien du réseau.
Et M. Spinetta propose que les gares soient rattachées à SNCF Réseau, qui est quelque chose qu'on réclame depuis longtemps quand même.
Qu'est-ce que ça change que les gares soient rattachées à SNCF Réseau?
Les gares font partie du ferroviaire. Les gares sont d'abord un équipement ferroviaire avant d'être des équipements commerciaux.
D'accord,
parce que le train, il faut qu'il arrive dans un quai. Et donc, il faut que la gare soit équipée pour ça, il faut qu'elle soit modernisée. Et c'est d'abord un équipement ferroviaire et nous, on est très attachés à ce qu'elle fasse partie de réseau.
Et puisqu'on est dans le cœur de ce que dit ce rapport Spinetta, SNCF Mobilité, SNCF Réseau transformé en SA, Société Anonyme. Roger Dillenseger, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Alors, dès le moment qu'on transforme en SA, on ouvre la possibilité, déjà on est dans la sectarisation, dans la segmentation totale des activités, on ira très rapidement vers une explosion de la SNCF elle-même et très rapidement vers des filialisations, donc de la privatisation. Donc effectivement, pour un cheminot que je suis, c'est quasiment inacceptable.
Mais en même temps, alors vous m'arrêterez si je me trompe, autant que je sache, on ne peut pas ne pas passer en société anonyme en vertu des règles européennes, Gilles Dansart.
Non, c'est pas
la forme juridique actuelle qui est pas compatible, de ce que j'ai compris moi.
C'est la garantie de l'État qui est affectée à un EPIC, ouais. Alors qu'elle n'est pas affectée à une SA. Donc il y a une distorsion de concurrence, dixit la Commission européenne.
Sur ces questions, c'est un peu difficile de considérer que c'est prioritaire. C'est-à-dire que ce qui semble prioritaire aujourd'hui, c'est de régler les problèmes à l'intérieur du groupe ferroviaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, TER ne parle pas beaucoup à TGV, qui parle pas beaucoup aux intercités, etc. À l'intérieur du groupe ferroviaire, il faudrait déjà que les uns et les autres se parlent avant que d'imaginer d'autres formes statutaires. C'est ça la priorité. Parce
Alors,
que
si
quand
on est
les
découpé,
Français souffrent,
si on est découpé
ce sera encore pire.
Voilà, un petit morceau privatisé ici et là, comment on va se parler?
Voilà. Alors c'est sûr que ça fonctionne mal aujourd'hui. Hein, les Français râlent parce que certaines correspondances ne sont plus assurées. Je pense que les usagers s'en plaignent beaucoup parce que les horaires sont pas toujours bien conçus, etc. Bon, si on garde un groupe ferroviaire public fort, il faut d'abord régler ça. Donc il y a des choses à régler d'abord à l'intérieur de l'entreprise avant d'imaginer des grands soirs d'organisation.
Bonsoir Serge.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Serge, on vous écoute.
Je vous remercie beaucoup pour vos émissions qui sont super sympas et qui sont très très intéressantes. Voilà, oui, mais moi justement je voulais parler un petit peu dans le même sens, dans le sens où il est... Pour moi, impossible d'être à la fois service public et rentable. Si on veut faire du service public, la rentabilité, on ne peut pas s'y tenir, s'y accrocher. Parce que bon, il est vrai qu'il y a des petites communes qui sont aujourd'hui desservies par le train, ces lignes ne peuvent pas être rentables vu le nombre de passagers qu'il y a. Et pourtant, c'est un service public. Et le deuxième point qui pour moi me paraît important, c'est qu'il y a une concurrence déloyale entre la route et le rail. Parce que bon, si bien les cars que les camions circulent sur des routes qu'ils ne payent pas, alors que la SNCF est obligée, elle, d'acheter ses terrains, de construire ses voies et de les entretenir.
Merci beaucoup pour cette question, Serge. J'imagine que vous allez dans le sens de Serge, Roger Dillenseger.
On pourrait regarder ce qui existe déjà. Notamment le transport de fret ferroviaire, qui est déjà ouvert à la concurrence depuis 2004, partiellement depuis 2006 totalement. La conséquence, c'est laquelle? Aucun trafic de gagné et un report massif vers la route. Donc quelque part, demain, je partage tout à fait que service public et rentabilité, c'est un antagonisme qui va pas bien. Mais en l'occurrence... Plus on va vers cette rentabilité, plus on va aller vers des suppressions de lignes et des suppressions de dessertes. Donc forcément, quelque part, une politique d'aménagement du territoire, une politique de développement durable qui est encore une fois en contradiction à ce qui est affiché politiquement.
Je me fiche de payer des impôts pour la SNCF, nous dit cet auditeur sur France Inter. Ça faisait longtemps. C'est un service public. Qu'importe la rentabilité, la SNCF doit fournir un service public. Point, desservir les gares au meilleur prix. Ce sera forcément, Bruno Gazeau, le gros point lorsque il faudra commencer à discuter. Ça commence dès lundi, les discussions. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, pourquoi la rentabilité est vraiment ce qui est important sur ces questions-là.
Pour nous usagers, c'est un juge de la qualité de service. Hein. À la limite, je dirais, peu importe les exploitants, c'est quand même la satisfaction de l'usager au quotidien qui est la plus importante.
Gilles Dansart.
Il y a la performance, effectivement, mais aussi il y a le moindre coût. Parce que on peut pas d'un côté se plaindre d'avoir des impôts très élevés et puis ne pas vouloir que la SNCF fasse un service public au meilleur coût. Et au meilleur coût, ça veut pas dire rentable, ça veut dire ne pas faire de gâchis d'argent public et être vraiment efficace, performante. C'est ça.
Vous dites qu'on veut le beurre, l'argent du beurre et un peu la crémière aussi.
Un peu quand même. Il faut regarder le problème du service public souvent, c'est que parce qu'il n'a pas voulu regarder en face sa performance et son efficacité, et on ne parle pas de rentabilité, sa performance, son efficacité, eh bien, il se met en position difficile par rapport à des idéologues, effectivement, de la libéralisation à tout vent.
Il y a un autre grand point dans ce rapport Spinetta, c'est celui de soulager la SNCF du fardeau de sa dette et d'une partie du retour de la dette à l'État. Là-dessus, Roger Dillenseger, est-ce que c'est la bonne méthode?
En l'occurrence, soulager la SNCF de sa dette, c'est pas tout à fait juste comme propos. Il y a deux tiers de la dette qui sont pas de la dette de la SNCF, mais c'est deux tiers de la dette qui sont issus tout simplement des engagements de l'État et de la volonté de l'État à construire des lignes à grande vitesse. Donc c'est des engagements de l'État et c'est effectivement la dette. La dette est portée par la SNCF et là on parle quand même de 1,5 milliard de frais financiers par an et je veux dire qui sont issus des engagements de l'État. Donc nous on considère que l'État doit assumer ses engagements et reprendre cette dette. Et avec un milliard et demi de charges en moins, je suis également convaincu qu'en termes d'efficacité économique, Réseau ce serait en meilleure posture. Mais là encore, il y a un deal qui est proposé entre les conditions sociales des cheminots et la reprise de cette dette de l'État. C'est pas du tout la dette des cheminots. Donc quelque part, il faut également que chacun prenne ses responsabilités. Et en l'occurrence, c'est déjà un des éléments qui a été soulevé de manière assez significative dans le cadre des travaux liés à la réforme de 2014. Il y a un engagement, il y a de respect des engagements de l'État qui aujourd'hui n'est pas assumé. C'est à l'État d'assumer ce rôle pleinement en termes de financement.
Gilles Dansart, sur la dette, l'idée c'est si on ouvre à la concurrence, effectivement, il faut assainir la grande machine. C'est ça que ça veut dire.
Surtout si on veut transformer SNCF Réseau en société anonyme, il faut apurer la dette. Moi j'attends le moment où le gouvernement ou Bercy diront on transfère 40 milliards de dette de la SNCF en dette d'État. On en parle depuis longtemps. Je ne suis pas certain que ça va arriver demain. Si ça arrive, tant mieux pour le système ferroviaire, mais ce ne sera pas non plus miraculeux. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'autres choses à faire que de soulager la dette, qu'il ne faut pas en attendre. Effectivement, si on dit aux cheminots, vous abandonnez votre statut parce qu'on va vous enlever la dette, c'est vraiment un deal, c'est un peu grossier. C'est pas ça qui résoudra les problèmes.
Mais il ne faut pas non plus que ce soit les usagers qui payent, parce que dans le rapport, il est dit... alors, sur les lignes LGV, M. Spinetta a dit, au-delà de 2020, il faudrait voir abaisser un petit peu le prix des sillons. Par contre, pour rembourser la dette, il faudrait augmenter... Le prix des sillons, c'est-à-dire le péage qu'on a sur la voie de chemin de fer pour faire passer un train.
D'accord.
Et il dit, par contre, il faut l'augmenter pour les TER. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi il faudrait le baisser pour les TGV et l'augmenter pour les TER, sachant que pour les TER, ça va être les régions qui vont payer. Et les régions, elles auront besoin de recettes, donc elles augmenteront les tarifs pour les usagers. Donc ça va pas bien. Et dans le même temps, les tarifs des autoroutes n'augmentent pas. Donc on est encore à nouveau dans cette iniquité entre les modes qui est injustifiée.
Tiens Bruno Gazeau, il y a une question pour vous qui vient de tomber. Pourquoi parle-t-on toujours d'usagers et non de clients ? Et est-ce que ce ne serait pas le début de la fin si on se mettait à parler de clients finalement ?
Écoutez, il y a 10 ans, on disait les usagers, c'est complètement périmé, il faut parler de clients, ça leur donnera des droits. Mmh. Bon, moi j'observe que 10 ans après, le client n'a pas davantage de droits que l'usager, et qu'aujourd'hui, l'usager, ça revient un peu à la mode parce qu'il est porteur de davantage de services publics.
Oui, les mots ont un sens, non, Roger Dillensegger, pour ça,
en fait. Très clairement, pour moi, c'est un vrai faux problème.
Ah oui, non, mais certes, c'est un peu anecdotique, mais enfin, c'est intéressant.
Il faut être de bonne facture pour, le jour où vous rentrez dans un train, distinguer un client d'un usager. Donc voilà, c'est quelque part... L'objectif de transporter des personnes en toute sécurité, dans bonne qualité, et effectivement de la ponctualité également, c'est partagé pour tous.
Gilles Dansart, vous vous sentez client ou usager ?
Ah, moi, je me sens voyageur et citoyen. Mais la vraie question, c'est que il n'y a pas eu de débat national autour de la place du ferroviaire. Il y a eu des assises de la mobilité qui ont été faites en septembre dernier. Et assises de la mobilité avec plein de communication autour, vous vous en souvenez peut-être, le ferroviaire a été exclu de ce débat national. Donc on est en train de prendre des décisions et de mettre des rapports sur la table qui vont changer la vie des Français, et même la physionomie des villes, des villes moyennes par exemple, si on ferme des gares, etc. Mais il n'y a pas eu de vrai débat national.
Je rappelle que dans la loi de 2014, qui n'est pas si vieille, il était prévu un schéma de transport, c'est-à-dire une carte avec des itinéraires, des fréquences et des tarifs qui devaient être débattus au Parlement. Ça n'a pas encore été le cas.
Allez, Patrick nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir Patrick, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Reagan, Thatcher, Berlusconi, Trump, pour moi c'est le visage est plus jovial, mais c'est la même politique, c'est-à-dire ultralibéralisme. Et je crains bien en tant que fonctionnaire que ce soit un ballon d'essai, quoi, ce qui se passe avec la SNCF, pour attaquer le statut du fonctionnaire en France et pour libéraliser à tout craint, quoi. Voilà. C'est vraiment la crainte. Et moi, en tant que fonctionnaire, je suis enseignant, je soutiendrai les cheminots dans leur combat pour conserver leur statut, parce que on a vraiment l'impression que c'est un coin qui est enfoncé dans la société française, avec un gouvernement qui a été élu avec une majorité vraiment très faible, hein, puisque les abstentionnistes ce sont les abstentionnistes qui ont gagné les élections. Et ce gouvernement n'a pas été élu pour ça, quoi.
Merci beaucoup pour cette remarque, Patrick. Roger Dillensegger, vous êtes une SAF ferroviaire, mais est-ce qu'on s'appelle dans ces cas-là, sincèrement, et à la Poste, parce qu'on en parlera d'ailleurs dès la semaine prochaine de la Poste, et dans tous les services publics, en fait, quand un rapport de ce type arrive, et donc que dans le futur, il peut se passer des choses importantes. Est-ce que c'est aussi des choses qu'on se dit dans un syndicat ?
Ah ben bien entendu, et notamment même de manière interprofessionnelle, parce qu'on travaille naturellement étroitement avec nos responsables interpro, Luc Berry, avec qui j'ai participé également à une audition auprès de Monsieur Spinetta. Et comme le dit le collègue de l'enseignement, on s'attaque là au patrimoine français. On s'attaque à l'identité française, que ce soit la Poste, dont on a vu comment ça se passe, quand on voit l'enseignement, le ferroviaire. Là, on est en train de détruire notre identité, détruire notre patrimoine.
Qu'est-ce qui va se passer ? Les concertations commencent lundi. D'abord, vous y allez à l'INSA. Pour l'instant, on attend et on voit. Vous y allez ?
Pour l'instant,
vous allez discuter.
Pour l'instant, on regrette que le débat public a été confisqué, comme le dit le collègue Gilles Dansart. On se souvient, on a été contributeur dans les assises du ferroviaire en 2012 maintenant déjà, donc ça commence à remonter. Mais quelque part, on va analyser avec précision le texte, le rapport, et naturellement, maintenant, on va travailler et on va apporter nos revendications directement au ministère.
Ça veut dire que vous avez, j'imagine, déjà un peu testé, sincèrement, parce que ça intéresse les gens qui nous écoutent et qui prennent le train. Est-ce que ça sent pas bon ? Est-ce que ça sent la mobilisation ? Est-ce que ça sent la grève à venir ? Est-ce qu'on est un peu quand même dans cet état d'esprit-là ?
Alors, très clairement, je le mets entre guillemets, mais je me permets de reprendre vos propos. Non, ça sent pas bon. Là, très clairement, ça sent pas bon.
Non, je vous ai entendu dire tout à l'heure ce matin...
Ça nous promet un printemps chaud.
Voilà, je vous ai entendu dire ce matin, cet après-midi, attaque en règle contre le service public. Quand on en est à dire que c'est une attaque en règle contre le service public, ça veut dire clairement qu'il se prépare socialement, grève et autre chose de ce même genre, sincèrement.
Alors, nous, on est dans la réflexion, on est dans l'analyse. On va porter nos revendications au ministère, on se fera entendre dès lundi matin. Mmh. Mais également, je peux vous préciser que dès la semaine prochaine, il y a une réunion intersyndicale où on ne manquera pas de s'exprimer après cette réunion.
Les usagers seront là d'ailleurs aussi, non, Bruno Gazeau, à ces concertations, ces consultations au fil du temps.
On est reçu au ministère des Transports lundi par la ministre des Transports et mardi par le Premier ministre.
Voilà, bah écoutez, on suivra ça avec beaucoup d'attention et en particulier donc si mouvement social se lève. Merci beaucoup d'avoir participé à ce téléphone sonne. Beaucoup de questions comme tous les soirs. Merci à tous.